Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, à la une aujourd'hui. 7 morts, dont 2 enfants dans les Pyrénées-Orientales, bilan d'un incendie qui a enflammé plusieurs immeubles la nuit dernière, une enquête est en cours. Le ministre de l'Intérieur attendu sur place, nous y serons dans un instant pour faire le point sur ce qu'on sait de ce drame. Égorgé en pleine messe devant les fidèles à Saint-Étienne-du-Rouvray, la mort du père Hamel, c'était il y a presque 6 ans. Le procès de cet attentat djihadiste s'ouvre aujourd'hui. Nous serons en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Dans le journal encore, les mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne inquiètent de plus en plus. Le chancelier allemand tente de jouer les médiateurs en Ukraine. Mais l'ombre d'un de ses prédécesseurs, Gerhard Schröder, et ses proximités avec Moscou parasitent la rencontre. La grâce sur la glace. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron offrent l'or à la France en danse sur glace au JO de Pékin. Vous entendrez leur joie. Ils seront avec nous dans ce journal. Les prix flambent et les salaires ne suivent pas. Le gouvernement met la pression sur les patrons. On fait le point dans cette édition sur l'avancée des négociations salariales. Et on revient sur le pouvoir d'achat, sujet phare de la présidentielle à 13h30. Quelle hausse de prix, quels arbitrages? On en parle avec Pascale Hébel, directrice du département consommation au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Vos questions 01 45 24 7000. Dans la deuxième partie du 13-14 aussi, notre feuilleton au lycée Antonin Artaud de Marseille. Il bâtit des ponts pour les élèves de filières technologiques, désireux finalement de faire une grande école ou une classe prépa comme Mohamed, 18 ans.
Sincèrement, mes années de collège, j'étais pas trop intéressé par les études, sauf que pendant mes années du lycée, j'ai lentement réfléchi et j'ai changé d'idée. J'aimerais étudier plus pour aller plus loin dans la vie et devenir ingénieur plus tard.
Un reportage à suivre et puis Je t'aime moi non plus comme un hymne de Saint-Valentin au programme de C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Une explosion dans la nuit à Saint-Laurent-de-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales. Une épicerie et des immeubles sans flammes. Et malgré l'intervention d'une centaine de pompiers, les flammes font 7 victimes. Le ministre de l'Intérieur vient d'arriver sur place. Selon nos confrères de France Bleu, des bouteilles de gaz y ont été retrouvées près de l'immeuble d'où nous est parti l'incendie. Le parquet de Perpignan a ouvert une enquête pour incendie volontaire ayant entraîné la mort. Claire Guédon, vous êtes sur place à Saint-Laurent-de-Salanque, village de 10 000 habitants, village en donc aujourd'hui.
Oui, un bilan qui n'a cessé de s'alourdir, qui monte maintenant à 7 morts, dont 2 enfants, l'un en très bas âge. Ils ont été retrouvés dans 2 immeubles différents. Les secours tentent encore de stabiliser le troisième pour y commencer les recherches. En fait, l'explosion a eu lieu au rez-de-chaussée d'un des bâtiments. Le plancher du premier étage s'est partiellement effondré et le souffle a détruit aussi des fenêtres des immeubles d'en face. La rue est encore complètement bloquée par les secours. On distingue de loin les façades noircies. Un peu plus loin, le foyer rural où ont été relogés les 25 habitants, réveillés cette nuit par l'explosion. Pour beaucoup, en état de choc, difficile de se reposer après un tel drame. Certains ont pu accéder à leur appartement, mais l'électricité a été coupée, donc ils restent dans la salle mise à disposition par la mairie. Et pour ceux qui habitaient au plus proche de l'incendie, ils risquent de ne pas pouvoir retourner chez eux avant au moins demain midi.
Claire Guédon de France Bleu Roussillon à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Le procureur annonce une enquête complexe. Les gendarmes ont du mal à accéder au lieu et le bilan pour l'instant de 7 victimes reste provisoire. C'était il y a près de 6 ans, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandie, le père Jacques Hamel, 85 ans, célèbre la messe dans l'église de sa paroisse, quand en plein office, 2 djihadistes de 19 ans, inspirés par l'organisation État islamique, font irruption et égorgent le prêtre devant ses fidèles, dont l'un est même forcé de filmer la scène. Le procès de ce sauvage assassinat démarre aujourd'hui. Vous le suivez pour France Inter. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Et c'est donc devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Oui, avec la présence du rescapé de cet attentat, Guy Coponnet, 92 ans, épaules voûtées et cheveux blancs. Il a été gravement blessé à coups de couteau par les terroristes. Entouré de sa famille sur le banc des parties civiles, il a posé sur la table devant lui une photo de son épouse, Janine, décédée l'an dernier, elle aussi dans l'église le jour de l'attaque. L'homme écoute, les yeux baissés, le président rappelait les faits. Assise devant lui, la sœur du prêtre assassiné, Roselyne Hamel, 80 ans, essaye de cacher une émotion palpable. Depuis ce matin, elle fait directement face à ces 3 hommes dont elle juge qu'ils sont liés à la mort de son frère.
Étrangement, je ne me sens pas mal à l'aise. Je suis même heureux de confronter, d'échanger leur regard. Je n'attends pas d'excuses. S'ils prononcent quelques mots, ils seront acceptés de tout cœur. Mais je pense que ces jeunes sont des victimes eux aussi du terrorisme.
Face à elle dans le box, Yacine Tsebaya, 27 ans, lunettes au marron, Farid Kellil, 36 ans, pull gris, cheveux noués en catogan, et Jean-Philippe Steven Jean-Louis, 25 ans, crâne rasé et chemise grise. Il ne laisse rien paraître quand le président décrit l'attaque. Un nom revient sans cesse dans le récit de ce 26 juillet 2016, celui de Rachid Kassim, quatrième accusé, soupçonné d'être l'instigateur, présumé mort en Irak. Il est absent, mais, note l'un des avocats de la défense, ce matin, son fantôme va planer sur cette audience.
Ariane Grissel en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Florent Layani. Merci à tous les deux, le procès doit durer jusqu'au 9 mars. Il devait comparaître demain à Nanterre en région parisienne pour escroquerie dans le remboursement de ses frais de campagne législative en 2012. Claude Guéant est hospitalisé d'urgence aujourd'hui pour une opération. À 77 ans, l'ex-secrétaire général de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy souffrait de problèmes cardiaques, ce qui a accéléré sa libération, notamment de la prison de la Santé la semaine dernière. L'actualité politique maintenant, c'est un lendemain de meeting difficile pour la candidate LR à la présidentielle. Valérie Pécresse devait frapper fort hier au Zénith pour donner un coup d'accélérateur à sa campagne. L'association SOS Racisme dénonce aujourd'hui le terme de grand remplacement employé par la candidate de droite devant son auditoire. Pas de fatalité, a-t-elle dit, au grand remplacement ni au grand déclassement. La présidente de région Île-de-France, elle se défend d'avoir repris à son compte cette théorie. Elle reconnaît aussi être plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français qu'en meeting devant une salle. Et tout ça fait les affaires d'un de ses adversaires qui la talonne dans les sondages. Éric Zemmour, bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Le candidat d'extrême droite salue aujourd'hui la 100 000e adhésion à son parti Reconquête et il entend capitaliser sur cette phase difficile de la campagne LR.
Oui, Éric Zemmour rêve aujourd'hui d'aspirer une partie de l'électorat LR. Une OPA sur la droite mise en scène ce matin au QG avec la remise en fanfare de la 100 000e et 100 001e carte d'adhérent à deux femmes issues des Républicains. Jamila qui a voté Éric Ciotti à la primaire et Corinne, une connaissance de Guillaume Pelletier.
Voyant les meetings d'Éric, auxquels j'étais scotché, celui de Lille entre autres, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu restes dans un parti où il n'y a plus d'enthousiasme, où tu ne ressens plus ce souffle d'énergie que nous donne Éric? Et puis alors, des tribuns, des orateurs hors pair, je me suis dit, ta place n'est plus chez les LR.
Corinne, l'incarnation d'un mouvement qui se répand, commente à ses côtés Éric Zemmour. Nous sommes l'héritier de la droite de toujours, lance-t-il, prophétisant l'éclatement de l'électorat LR.
Valérie Pécresse, qu'est-ce que c'est? Je cite Éric Woerth. C'est du Emmanuel Macron sans le talent et du Éric Zemmour sans la puissance. Désormais, les LR devront se répartir et choisir entre ces deux candidats.
Une prophétie donc, mais un gros écueil. Le manque criant pour le moment de ralliement venu de LR. Beaucoup de figures en revanche issues du RN. Le sénateur Stéphane Ravier encore hier et l'arrivée imminente de l'eurodéputé ancien secrétaire général du FN Nicolas Bay de plus en plus évoqué.
Élodie Forêt en direct du quartier général d'Éric Zemmour avec Yves Lehors pour la liaison technique. Voilà pour quelques candidats déclarés. Dans les rangs d'un candidat non déclaré, Emmanuel Macron, les jeunes de La République En Marche surfent, eux, sur cette journée de Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février, ça ne nous aura pas échappé. Ils investissent les sites et applications de rencontres avec des photos sensuelles pour inciter les abonnés à s'inscrire sur les listes et à aller voter. Bonjour Noémie Lair.
Bonjour.
Quelle est la stratégie exactement?
L'objectif est de parler politique avec les jeunes en allant les chercher là où ils sont, sur les applications de rencontres Tinder, Grindr et Bumble. Omroz Méjean est le président des Jeunes avec Macron.
On va sur des applications qui sont utilisées par les jeunes pour leur parler. Si vous escomptez parler aux jeunes en passant par le JT de 20h de TF1, bah généralement c'est moins efficace que si vous allez sur des médias qui sont plus tournés vers eux ou directement là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et en l'occurrence dans les applications de rencontre.
Mais l'opération a fait grincer des dents chez Tinder qui ne veut pas que de faux profils soient créés pour parler politique. Alors les jeunes avec Macron misent sur leurs militants. Une centaine de jeunes du mouvement déjà inscrits sur ces applications vont se charger d'inciter à aller voter en discutant de la présidentielle avec les utilisateurs. L'opération se veut transpartisane, mais elle entre dans une communication plus globale pour porter la candidature, toujours pas officielle, d'Emmanuel Macron. La semaine dernière, les affiches « On a très envie de vous » avec le président en photo ont été lancées.
C'est vrai que c'est une communication un peu osée, mais on a pris ce créneau aussi parce que cette campagne présidentielle, si vous voulez, je la trouve, et on la trouve collectivement un peu terne, avec des idées qui sont pas forcément très nouvelles, un peu de réchauffé, beaucoup de rance aussi, quand on regarde ce que peuvent peuvent dire Éric Zemmour, Marine Le Pen et même maintenant Valérie Pécresse, vu ce qu'elle a dit hier. Et donc ce qu'on a envie dans cette élection présidentielle, c'est aussi d'incarner quelque chose d'un peu plus optimiste, un peu plus positif.
Et l'opération vise donc à mobiliser, à faire réagir les jeunes, un électorat d'autant plus intéressant qu'Emmanuel Macron est en tête dans les sondages chez les 18-30 ans.
Saint-Valentin, bien sûr, on a envie de s'embrasser, mais mieux vaut encore rester masqué. Le niveau de contamination reste élevé chez nous, même si les hospitalisations et les entrées en réanimation marquent le pas. 3577 patients Covid sont en ce moment dans les services d'urgence en France. Et en dehors de la levée annoncée des restrictions à venir, on réfléchit aussi à l'après. Le Conseil scientifique veut tirer les leçons de la crise de la Covid dans un avis tout juste publié. Il préconise de décloisonner le monde de la santé, associer les vétérinaires et les écologues, trop négligés, disent les sages, alors que 75% des agents pathogènes sont issus du monde animal. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Spécialiste sciences et santé de France Inter. Comment faire mieux à l'avenir?
Penser une seule santé, c'est ce qui permettra de mieux réagir face à l'émergence de nouveaux virus et au risque de pandémie. Et c'est sur ce concept que le Conseil scientifique insiste. Il tire les leçons de ce qui a manqué pendant la crise. En gros, vous l'avez dit, trop peu d'interactions entre communautés médicales et vétérinaires, chacun dans son couloir, alors que de Zika à la grippe aviaire, en passant par la fièvre de la vallée du Nil, les vétérinaires savent identifier, suivre et gérer des pandémies. L'avis rappelle aussi le rôle des écologues. L'homme n'est qu'une pièce dans l'écologie planétaire. Les virus peuvent venir de son environnement. Pour le comprendre, il faut décloisonner les savoirs, rapprocher les expertises et aborder les pandémies de façon globale. Élargir le regard en somme, dit Thierry Lefrançois, chercheur au CIRAD et membre du Conseil scientifique.
Plus on va se placer en amont des crises pour la détection précoce et même pour essayer d'anticiper ou même d'empêcher de nouvelles crises sanitaires pandémiques, plus il faut avoir une vision intégrée de la santé et non pas secteur par secteur. Donc une vision multisectorielle, secteur de la santé humaine, santé animale et environnement. Et pour cela, il y a des choses à faire à toutes les échelles. Aller jusqu'à la priorisation des maladies à surveiller, des pathogènes à surveiller, des espèces animales réservoirs de virus à surveiller de manière prioritaire.
D'autres pistes sont évoquées pour faire de la France un moteur européen sur ces questions. Financer plus de recherches pluridisciplinaires, rapprocher les ministères, lever les blocages administratifs. Il faut aussi s'inspirer de ce qui existe à l'international, dit l'avis, car déjà, certains pays ont intégré ce concept de une seule santé, l'Asie du Sud-Est ou encore le Sénégal, qui a un délégué interministériel sur le sujet depuis 2 ans.
Au chapitre Covid, l'Allemagne prévoit, elle, de supprimer la plupart des restrictions sanitaires le mois prochain. Le port des masques devrait cependant rester obligatoire dans les transports et les espaces clos. À l'étranger encore, la Russie continue à le clamer. Elle ne compte pas envahir l'Ukraine, même si les plus de 100 000 soldats massés à la frontière semblent indiquer le contraire. Les images satellites et les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux montrent même une concentration des moyens sur ce qui ressemble de plus en plus à un front. Officiellement, le Kremlin parle de manœuvres militaires, mais l'ampleur de ces moyens sème le doute. Correspondance à Moscou, Sylvain Tranchet.
L'une des images marquantes de ce week-end, c'est le sous-marin d'attaque Rostov sur le Don qui a passé en surface le détroit du Bosphore pour entrer en mer Noire. Il y a à peine une dizaine de jours, ce bâtiment ultramoderne, capable de tirer des missiles en plongée et que les Russes avaient utilisé lors de la guerre en Syrie, était signalé en mer du Nord. Cette concentration de moyens autour des frontières ukrainiennes est documentée en quasi-direct depuis des semaines par des internautes spécialisés en recherche d'images, comme cet ingénieur suisse qui souhaite rester anonyme et qui publie sur Twitter des photos satellites, des vidéos montrant l'ampleur des mouvements de troupes russes.
On voit des vidéos de trains qui partent depuis des bases qui se situent plus près de la Corée du Nord que de l'Europe. Et on voit ces mêmes véhicules arriver 2 semaines plus tard en Biélorussie. C'est exceptionnel ce qui se passe. On voit autant des blindés traditionnels, des tanks, etc., que des équipements logistiques pour tout ce qui est ingénierie, donc poser des ponts, etc., pour traverser des rivières. On voit des missiles balistiques. On voit aussi beaucoup de navires, certains viennent même du Pacifique, qui sont arrivés en train d'arriver en Méditerranée ou dans la mer Noire. Certains l'ont dit, on n'a jamais vu ça depuis la fin de la guerre froide.
Et parmi les signes jugés inquiétants ces derniers jours, il y a eu l'apparition d'hôpitaux de campagne sur certaines bases russes à proximité de la frontière ukrainienne. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et pour tenter d'apaiser cette situation de crise, le chancelier allemand est en Ukraine aujourd'hui. Olaf Scholz doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky avant le président Poutine. Demain, rencontre sur laquelle plane l'ombre de Gerhard Schröder, épine dans le pied allemand sur l'Ukraine. Bertrand Galichet, l'ex-chancelier, membre du SPD comme Olaf Scholz, a aujourd'hui des relations très proches avec le Kremlin.
Personnalité de premier plan parmi d'autres lobbyistes occidentaux recrutés par Vladimir Poutine, Gerhard Schröder, en pleine crise ukrainienne, devient embarrassant pour l'Allemagne et surtout gênant pour Olaf Scholz. L'actuel chancelier a été l'un des plus proches de Gerhard Schröder au sein du SPD. C'est grâce à lui que Scholz est élu au début des années 2000, secrétaire général du Parti social-démocrate, devenant un ardent défenseur des réformes sociales mises en œuvre par Schröder. Aujourd'hui, le chancelier Scholz est contraint d'afficher la plus grande distance avec son ancien mentor, transformé en l'un des piliers du système Poutine. Président du conseil d'administration du groupe pétrolier Rosneft, Gerhard Schröder participe aussi au gazoduc Nord Stream 2 et sera bientôt au conseil de surveillance de Gazprom, gage de sa fortune et de sa proximité avec le Kremlin. Une relation encombrante, obligeant la semaine dernière Olaf Scholz à rappeler que Gerhard Schröder ne parle pas au nom du gouvernement allemand. Cette situation commence aussi à faire des vagues dans l'opinion outre-Rhin, l'ancien chancelier dispose toujours à Berlin de locaux et de personnel payés par l'État allemand.
Ils ont été arrêtés aux portes de Bruxelles. Les membres de l'autoproclamé convoi de la liberté voulaient rejoindre la capitale belge pour y protester contre les restrictions sanitaires, notamment le pass vaccinal. Finalement, les autorités ont bloqué une trentaine de véhicules. Quelques centaines d'autres se sont évaporés dans la nature, selon le maire de Bruxelles. D'autres encore semblaient prendre la direction de Strasbourg, autre ville symbole de l'Europe, pour dire leur ras-le-bol. Là-bas aussi, la préfecture a décidé d'interdire leurs manifestations. Et parmi les revendications de ces convois dits de la liberté, il y a la levée des contraintes sanitaires, mais aussi le coût de la vie trop élevé, inflation de près de 3% chez nous au mois de janvier. En pleine négociation annuelle sur les salaires, les conflits sociaux se multiplient et le Premier ministre lui-même appelle les entreprises à relever le niveau des rémunérations. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Pourtant, les augmentations ne sont toujours pas au rendez-vous ou pas au niveau souhaité par les salariés.
Avec des piquets de grève qui fleurissent un peu partout en France, chez Alstom aujourd'hui près de La Rochelle, Lustucru en grève depuis une semaine à Saint-Etienne ou encore la Fnac Saint-Lazare en grève illimitée perlée des vendeurs en librairie qui demandent une prime refusée par la direction. Des négociations qui piétinent également dans la grande distribution chez Carrefour, Castorama, Monoprix ou Auchan, avec à chaque fois ce dialogue de sourds dénoncé par les syndicats, 1% d'augmentation en moyenne sur la table, quand les salariés en attendent 3 pour s'arrimer à ces 3% d'inflation. Alors que le SMIC, lui, a bel et bien grimpé de 3% en un an, les syndicats et une partie des économistes, y compris parmi les plus libéraux, appellent à de nouvelles règles pour que les conventions collectives sur les bas salaires suivent enfin le SMIC automatiquement, un SMIC français parmi les plus élevés en Europe. Bientôt dépassé par l'Allemagne et la Grande-Bretagne, plus 22% pour le SMIC allemand à 1900 euros brut en octobre prochain, 7% de plus en Grande-Bretagne avec un SMIC britannique qui dépassera le SMIC français d'une centaine d'euros en avril prochain.
Pouvoir d'achat mis à mal et hausse des prix, qui est touché et comment gère-t-on ? On en parle à 13h30 avec notre invitée Pascal Hébel, directrice du département consommation au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Vos questions 01 45 24 7000. Un homme a été tué ce matin à la gare du Nord, à Paris, par deux policiers qu'il menaçait avec un très long couteau. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
La piste terroriste est écartée. Vous en savez plus sur ce qui s'est passé ?
Le procureur en charge de cette affaire a ouvert une double enquête. D'un côté pour tentative d'homicide volontaire contre deux agents des forces de l'ordre. Et de l'autre côté a saisi l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, pour vérifier que l'usage de leur arme de service était bien justifié face à une menace mortelle imminente, en état de légitime défense donc. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que l'homme abattu ce matin par les policiers de la préfecture de police était âgé de 31 ans, qu'il n'était pas connu des services de police. Mais des agents qui patrouillent régulièrement dans la gare du Nord affirment qu'il faisait partie des quelques vagabonds qui errent régulièrement sur les quais. Là, l'homme a fait face aux policiers, un couteau avec une lame de 30 cm dans la main, en pleine heure de pointe à 7 heures. Il a insulté les agents, a refusé de poser son arme, malgré les injonctions. Plusieurs syndicats de policiers ont apporté leur soutien à leurs collègues, surtout après avoir su que sur le manche du couteau figurait l'inscription « ACAB, All Cops Are Bastards ». Tous les flics sont des bâtards, slogan des mineurs britanniques dans les années 80, repris par plusieurs mouvements d'extrême gauche pour dénoncer la répression policière de ces dernières années en France lors de manifestations.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Allez, un peu de douceur. « Ils ont 26 et 27 ans et ils nous ont offert ce matin au JO de Pékin une médaille d'or, un pur moment de beauté. Elle en robe dorée, lui en rouge et noir. Ils ont enchaîné les figures sur la glace au son de l'élégie de Gabriel Fauret, battant au passage un record en danse libre après un autre samedi en danse rythmique. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron viennent d'être sacrés champions olympiques en danse sur glace et nos nouveaux champions sont avec nous dans ce journal de 13h. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous sentez après cette belle médaille d'or?
Ah ben, on sent super, super, super heureux. En fait, on a beaucoup d'émotions. C'est assez indescriptible. Je pense qu'on n'arrive pas encore à réaliser vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui.
Vous étiez quand même un peu sous pression, puisque tout le monde vous attendait, en fait.
Ouais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'enjeux pour cette compétition. Je pense qu'on se mettait la pression. Parce que voilà, on savait qu'on serait satisfait seulement avec l'or. C'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, c'est sûr qu'il y avait vraiment beaucoup de pression. On était un petit peu moins stressés aujourd'hui que pour la première épreuve. Mais oui, les nerfs étaient là.
Ça n'a pas été facile de s'entraîner ces derniers temps avec l'épidémie de coronavirus. C'est vrai que ça faisait finalement 2 ans que vous n'aviez pas patiné en compétition contre les meilleurs du monde.
Oui, bah c'est sûr que la pandémie ça a touché beaucoup notre milieu, mais comme beaucoup de gens, je pense que tout le monde a vécu un peu une passe difficile et c'est sûr que ça a ajouté beaucoup de difficultés à notre parcours olympique. Mais on a quand même commencé la saison en septembre, octobre, et en effet on n'a pas fait de les grosses compétitions qu'on devait faire contre les Russes notamment ont été annulées, donc on n'a pas pu les rencontrer en compétition. Mais bon, je pense que ça a été une préparation différente de celle à laquelle on est habitué, mais heureusement on a beaucoup d'expérience maintenant et je pense qu'on c'est sur ça qu'on s'est reposé.
Comment on fait pour, sur quelque chose d'aussi précis et d'aussi technique, pour donner cette impression de facilité? Quand on vous regarde, on se dit finalement, c'est pas si compliqué que ça.
Mais je pense que c'est ça qu'on essaie de faire, donc c'est quand même c'est un beau compliment, merci. Mais c'est des heures et des heures d'entraînement, ça fait plus de 20 ans qu'on patine et ça fait 18 ans qu'on patine ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont devenues complètement naturelles. Je veux dire, il y a plein d'automatismes, il y a de la répétition, des heures et des heures de répétition pour que ça ait l'air d'être facile. Donc c'est notre but, on essaie de faire rêver, de procurer des émotions sans que l'effort paraisse.
Gabriela, je repense à vos mésaventures des derniers Jeux Olympiques. On se rappelle que votre robe s'était décrochée au tout début de l'épreuve. Ça efface cette médaille d'aujourd'hui, elle efface tous ces mauvais souvenirs?
Oui, bah en fait, moi j'ai voulu gagner la médaille d'or juste pour qu'on arrête
de parler de ça.
Non, je rigole. Bah oui, bien sûr, en fait, il y a 4 ans, on était surtout très déçus de ne pas avoir fait les performances qu'on voulait. Et on ne voulait pas réitérer ce sentiment. On voulait garder un beau souvenir de cet événement-là, garder un beau souvenir des Jeux Olympiques. Donc, c'est d'autant plus précieux, oui.
Quid de la suite? Parce que là, vous avez décroché le seul titre qui manquait à votre palmarès, finalement.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'était la seule médaille d'or qui manquait à notre palmarès. Puis maintenant, c'est sûr que les championnats du monde qui vont avoir lieu à Montpellier dans quelques semaines, il y a un petit peu moins d'enjeux. Je pense qu'on va essayer de tout d'abord de donner un beau spectacle. Ça va être une belle célébration avec notre équipe. Puis ça va nous donner l'occasion de montrer nos programmes en vrai à tous ceux qui n'ont pas pu être présents aux Jeux de Pékin.
On vous verra au prochain Jeu d'hiver? Vous ne savez pas encore?
C'est un peu tôt.
Petite question peut-être sur le contexte. C'est vrai que c'est les Jeux Olympiques de Pékin. On a parlé de la question des droits de l'homme. On a parlé de la question de l'environnement aussi avec cette neige artificielle. Alors vous patinez sur la glace, donc ça ne vous concerne pas directement. Mais comment vous le vivez, ce contexte un petit peu peut-être compliqué?
Bah nous, je veux dire, on est tellement déjà stressés avec notre propre compétition et les enjeux, nos enjeux personnels, que c'est vrai qu'on essaie de ne pas se rajouter du stress avec des facteurs environnementaux, etc. Évidemment, c'est je veux dire, chaque Jeux Olympiques arrive dans un contexte sociopolitique différent, et là il se trouve que c'est vrai que c'est il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Après nous, ben on est des sportifs avant tout, on est venu là pour faire une compétition. Puis je pense que même historiquement, je veux dire, l'intérêt de ces jeux, c'est d'essayer d'inspirer le monde entier, de véhiculer des messages de paix, d'entente, de montrer que, voilà, même si il y a une rivalité, on est capable de faire de grandes choses tous ensemble. Donc, je pense qu'on participe de notre manière à essayer de faire passer des messages qui inspirent le monde.
Message de paix, mais pas de message politique, donc.
Bah, je pense qu'actuellement, c'est pas notre rôle. En fait, théoriquement, on a même l'interdiction en tant que sportif au jeu d'utiliser l'événement à des fins politiques. Donc, non, je pense qu'il faut pas politiser le sport. Je pense que, voilà, il y a des centaines d'athlètes qui sont ici, qui se sont préparés pour essayer de donner le meilleur et je pense que c'est là-dessus qu'on se concentre actuellement.
Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, nos deux danseurs sur glace qui ont décroché la médaille d'or, 11e au tableau du sport français. Entretien réalisé un peu plus tôt dans la matinée. Merci à eux et à toute l'équipe de France Inter à Pékin. Sport et message politique. Le rappeur Eminem, une des stars du célèbre spectacle de mi-temps du Super Bowl, finale du championnat de football américain la nuit dernière, a enflammé le stade de Los Angeles où se tenait l'événement. Le chanteur a simplement posé un genou à terre. Geste d'hommage au joueur Colin Kaepernick qui avait fait de même en 2016 pour dénoncer violences policières et inégalités raciales. Il nous a appris à toujours rechercher la magie de la vie. L'émouvant hommage de la famille d'Ivan Reitman au réalisateur-producteur américain d'origine tchèque, mort samedi à l'âge de 75 ans. Ivan Reitman avait notamment réalisé Les Jumeaux et Un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger ou encore SOS Fantôme, son plus grand succès. Corinne Pellissier, il aura marqué les années 80 à 90 et laisse encore sa trace dans le cinéma d'aujourd'hui.
De l'humour, des fantômes, une BO devenue culte et un groupe de copains, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ivan Reitman, formés ensemble à la comédie sur les plateaux de télévision, avant de marquer avec Ghostbusters toute une génération de spectateurs dans les années 80. La même équipe que l'on retrouve 50 ans plus tard dans un quatrième volet de ce grand succès de la pop culture américaine, réalisé cette fois par le fils d'Ivan Reitman, Jason, dont il avait produit le film Indy-Air et qu'il accompagnait pour un dernier tour de piste. Le cinéma, une histoire de copains, de famille et d'attachement à ses projets qui l'avaient marqué. Le producteur-réalisateur ces derniers mois travaillait à la suite de son autre grand succès, Les Jumeaux, avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito.
Et pour une bouffée de nostalgie, le portrait d'Ivan Reitman est à lire sur notre site franceinter.fr. Dans quelques minutes, le pouvoir d'achat, c'est le grand thème de la campagne présidentielle. Flambée des prix et influence sur nos achats. On en parle avec la directrice du département consommation, centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Vos appels, vos témoignages, 01 45 24 7000. Mais d'abord, dans un instant, un coup d'œil vers le ciel.
France 2.
J'attends de cette danse une vraie rencontre.
Ce que j'espère, c'est qu'on ait un coup de foudre réciproque, que ça nous marque.
Sur cette piste, tout peut arriver. Un flirt et une danse, présenté par Faustine Bollaert, c'est demain soir à 21h10 sur France 2.
France Inter présente
Au bonheur des lettres, un spectacle caritatif au profit de Bibliothèques sans frontières. Une soirée unique mise en scène par Jérémy Lippmann, au cours de laquelle Bertrand Belin, Zabou Bretman, Vincent Dedienne et bien d'autres artistes interpréteront les plus belles correspondances littéraires. Réservation nécessaire dès maintenant. Plus d'infos sur franceinter.fr. Au bonheur des lettres, le 28 mars à 21h au Théâtre de la Porte Saint-Martin, un événement France Inter.
La météo de votre lundi 14 février.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps agité aujourd'hui.
Oui, du nord-est à l'est du Rhône, on retrouve notre perturbation avec des pluies plus marquées sur la région PACA. De la neige vers 800 à 1000 mètres, surtout sur les Alpes du Sud où le risque d'avalanche est marqué, donc soyez vraiment prudents. Ailleurs, un ciel d'averse s'est installé avec quelques éclaircies appréciables, mais c'est quand même plus encombré de la Normandie au sud-ouest avec de fréquentes averses, parfois un orage et du grésil. Ce temps glisse progressivement vers le nord de la Seine, le bassin parisien en cours d'après-midi. On a du vent un petit peu partout, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure et même 80 80 sur le Pays Basque. Et puis les températures, elles baissent, mais restent plutôt agréables. Alors 8 degrés à Belfort, 11 à Lille, Angers, Clermont-Ferrand, 12 à Paris, Vannes, Bayonne et Toulouse, jusqu'à 15 en Corse. Demain, on aura du soleil et du vent en Méditerranée. Puis ailleurs, ce sera souvent gris avec quelques gouttes et de nouvelles pluies même du nord-ouest au nord.
Merci Élodie Calac de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14, Marion Loup.
Il y a le bruit des klaxons de ces véhicules qui ont tenté en vain de rejoindre Bruxelles. Il y a leurs revendications principales, anti-pass sanitaire, anti-contrainte Covid. Et puis il y a comme une musique de fond cette complainte en filigrane dans les discours, celle de la vie trop chère, l'essence qui flambe, le logement qui pèse sur le budget des foyers. Sur ce plan-là, au moins les convois de la liberté sont un écho des préoccupations, l'inquiétude face à ces prix qui grimpent chez nous, près de 3% de plus en janvier, un rythme qui devrait se maintenir et peut-être même accélérer jusqu'au mois de juin. Tendance récente qui change notre façon de consommer. On en parle aujourd'hui avec Pascale Hébel, directrice du département consommation au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Alors je le disais à l'instant, Pascale Hébel, les prix augmentent en ce moment de près de 3% par mois. Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui flambe en réalité?
Alors ce qui a surtout flambé en fin d'année dernière et qui continue de flamber, c'est évidemment l'énergie. Donc ce soit l'énergie pour le logement, le carburant qui fait des croissances de 15%, donc c'est énorme et ça dure depuis 3-4 mois. Et ce qui va augmenter dans les mois à venir, c'est l'alimentation qui commence à augmenter au mois de janvier.
Alors pourquoi ça commence maintenant ?
Alors il y a un décalage qui est lié en fait à la fois aux récoltes et l'impact de l'énergie. Il faut savoir que sur l'industrie agroalimentaire, le poids de l'énergie est très important. Et on a eu des baisses de récoltes importantes en blé, maïs, au niveau mondial, ce qui fait que les cours augmentent fortement. Et c'est ça qui fait qu'il va y avoir une répercussion. En ce moment, on est en période de négociation commerciale entre la grande distribution et les producteurs.
Qui doivent arriver à fixer les prix, au final.
Qui doivent arriver à fixer les prix. Et donc, on peut imaginer qu'en mars, alors même si les négociations sont très dures en ce moment, on aura une inflation sur l'alimentation.
Et ça se sent dans le budget des Français, déjà, cette hausse à la fois de l'alimentation qui arrive et puis de l'énergie qui est en cours.
Oui, alors sur l'énergie, en octobre, par exemple, l'INSEE a mesuré que sur le mois d'octobre, il y a eu pour en moyenne pour les Français une hausse de 25 euros liée à l'énergie. Et ça touche évidemment des catégories très très différentes. Et c'est vraiment sur le poids du logement qu'il y a vraiment des inégalités très très fortes entre les différents foyers.
Mais le logement n'a pas tant augmenté que ça, si on vous écoute. C'est plutôt, vous disiez, l'énergie, l'alimentation. Donc pourquoi?
Oui, alors ce qu'on appelle le logement, c'est y compris les loyers, mais aussi toute la partie chauffage, aussi l'eau, etc., réparation des logements. Et c'est bien parce qu'il y a une hausse de l'énergie qu'on a une inflation qui est forte. Et ce qu'il faut noter, il y a une étude qui a été faite par l'INSEE en 40 ans, les inégalités sur le logement sont énormes. Entre les 20% les plus pauvres par rapport aux 20% les plus riches, on est aujourd'hui à un écart de 10 points sur le poids du logement, ce qui veut dire que dans les ménages les plus faibles, ça pèse 43% tout le post-logement, c'est-à-dire énergie plus loyer plus réparation.
Donc, près de la moitié de leur rémunération.
Près de la moitié
par,
de leur budget, alors que c'est que 23% pour les 20% les plus riches. Et cet écart-là, qui est de 20 points, en 1980, il était que de 3 ou 4 points. Donc en fait, il y a un grand ciseau entre les plus modestes et les plus riches sur ce poids du logement. Et comme c'est l'énergie qui aujourd'hui augmente, c'est la moitié du budget logement, c'est ça qui fait qu'il y a des difficultés très fortes du côté des plus modestes.
Vous nous l'avez dit un petit peu, Pascale Hébel, mais du coup, qui sont les personnes les plus touchées? Effectivement, les plus modestes, donc c'est une question de classe sociale, je dirais. Est-ce qu'il y a une répartition géographique aussi ou...
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'a montré cette étude de l'INSEE sur le mois d'octobre 2021. C'est vraiment dans les zones rurales que le poids de l'énergie pèse le plus, hein, donc c'est beaucoup plus, donc c'est 3 fois plus sur le mois d'octobre dans les zones rurales par rapport aux très grandes villes, tout simplement parce que quand on est en zone rurale, on habite dans des maisons, les maisons sont beaucoup moins isolées que les appartements, les surfaces sont plus grandes en moyenne pour le foyer, et puis pour les zones rurales, on a plus souvent besoin de sa voiture pour aller travailler. Donc comme il y a hausse aussi sur le carburant. Eh bien, c'est dans ces zones-là qu'on a le plus de difficultés. Et évidemment, à Paris, c'est là qu'on a le moins d'écart, en fait, avec la hausse. Il y a moins d'impact de la hausse de l'énergie à Paris que dans les zones rurales.
Marie nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Marie.
Oui, bonjour France Inter, merci de prendre ma question. Bonjour madame. Alors moi, c'est par rapport à l'INSEE, parce que par rapport à tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas revenir sur l'augmentation de l'énergie, le logement, etc., je trouve qu'il y a une prise en compte qui n'est pas faite par l'INSEE, c'est qu'il y a une perte dans la qualité, donc une perte de pouvoir d'achat qui oblige à ce moment-là soit à renouveler, soit effectivement à avoir des moyens supérieurs pour pouvoir avoir la même qualité. Je vais prendre un exemple que tout un chacun peut éventuellement voir et comparer, c'est-à-dire que les vêtements paraissent, par exemple en coton, paraissent tout à fait d'un prix effectivement abordable, mais qu'il faut soit renouveler souvent, soit en regardant les étiquettes, constater que la quantité de coton n'est plus du tout la même que celle qui existait auparavant. Donc si je veux acheter du coton, des serviettes éponges en coton, soit je m'adresse à quelqu'un qui me vendra une serviette plus chère, soit je serai obligée de renouveler très souvent ma serviette. Voilà.
Problème de qualité, donc, parce qu'elle est belle. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc il y a ces effets-là sur ce type de produit. On a aussi, quand il y a beaucoup d'inflation, des techniques marketing qui sont de vous proposer, par exemple dans l'alimentation, des produits dans des contenants plus petits pour pas que vous vous rendiez compte de l'inflation. Sur la qualité, il y a d'autres effets, mais qui sont à l'inverse de ce que vous venez de décrire. C'est le fait que vous êtes obligé aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui se rasent, d'acheter des rasoirs avec 4 ou 5 lames, ça n'existe plus, des rasoirs avec une lame, et donc c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que sur le marché, sur un ordinateur par exemple, si vous achetiez le même ordinateur qu'il y a 20 ans et qu'on pouvait l'acheter, il coûterait très, très peu cher, mais il y a tellement d'innovations que finalement, ça vous coûte plus cher d'acheter un ordinateur, et c'est ce qu'on appelle l'effet qualité.
Oui, c'est ce que je lisais ça dans un article d'un de nos confrères journalistes, c'est que une partie de la majorité en off, hors micro, disait que finalement, les Français étaient aujourd'hui plus exigeants, ils voulaient plus, ils voulaient leurs abonnements Netflix, ils voulaient certains des piscines, alors ça c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, est-ce que finalement, il y a aussi une frustration sur le pouvoir d'achat parce qu'on a besoin de plus aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est l'effet lié au désir de consommer plus et d'accéder à des innovations dans les nouvelles technologies. Donc du côté des téléphones, hein, c'est là qu'il y a des croissances très très fortes en achat parce qu'il y a des innovations tous les jours, enfin tous les ans, il y a des produits qui sont plus performants qui sortent. Donc ça crée cet effet de frustration. Et il y a une autre chose qui se passe depuis une vingtaine d'années, c'est que quand il y avait une inflation il y a 40 temps, tous les produits augmentaient à peu près de la même valeur, alors qu'aujourd'hui, il y a des prix qui augmentent beaucoup et d'autres qui baissent. Et donc, si je reprends de la nouvelle technologie, par exemple, eh bien, il y a des biens, comme l'habillement, en effet, qui baissent, sur lesquels il y a des prix en baisse. Et donc, il y a des écarts très, très importants. Donc, on a du mal aussi à percevoir la réalité de l'inflation en moyenne.
Isabelle des Hauts-de-Seine a appelé France Inter. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Pascal Hébel?
Oui, une remarque. En fait, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par l'intervenante précédente. Et effectivement, moi, je relevais un aspect marketing. Madame vient d'en parler à l'instant en disant qu'on avait affaire à des contenants plus petits. Effectivement, moi, je suis parfois frappée quand j'attrape un paquet dans un rayon de me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me paraît bien léger et en effet, il s'est nettement allégé. On voit des paquets d'un kilo de légumes, par exemple, qui sont d'abord passés à 900 grammes, puis qui sont passés à 750, sans qu'il y ait de baisse de prix. Voilà, et je voulais simplement dire que le consommateur n'est pas aveugle. On s'en rend parfaitement compte, mais on est impuissant, malheureusement.
Alors, Pascal Hébel, vous en parliez hein, tout à l'heure, effectivement, de cette astuce de diminuer un peu la quantité pour le même prix. Il y en a d'autres, des comme ça ?
Ah, il y a tout un tas de choses qui peuvent en effet vous donner l'impression que c'est moins cher, hein. Donc c'est cette partie-là où on diminue la quantité et c'est diminuer la qualité sur des biens qui pourraient durer plus longtemps. Et en fait, le produit il est plus fragile et donc il se casse plus facilement et ce qui fait qu'il faut le renouveler. Alors qu'on est dans une période où on va quand même vers plus de réparabilité. Il y a des lois qui sont passées au niveau européen et qui demandent aux sur tout un tas de biens, comme tout l'électroménager, pour que ce soit l'inverse, en fait, hein, pour que les produits soient de plus en plus durables, que vous puissiez changer les pièces détachées et que vous fassiez réparer plutôt que de changer d'objet. Donc, c'est ces calculs-là qu'il faut faire. C'est d'investir un peu plus, payer un peu plus cher pour que les produits durent plus longtemps.
Gérard nous appelle de Dordogne. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Votre question à Pascal Hébel.
Oui, voilà. Oui, je souhaiterais qu'on puisse évoquer la retraite des retraités qui a parfaitement baissé depuis que M. Macron est là, alors que lui-même avait prévu, lors de sa campagne, qu'il aurait maintenu le pouvoir d'achat.
Alors, Pascal Hébel, en fait, c'est une question peut-être un peu plus générale, mais c'est vrai que si on regarde les études de l'INSEE, le niveau de vie moyen des Français a augmenté ces 5 dernières années. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ont l'impression que ce n'est pas le cas ?
Alors, il y a en effet, sur certaines catégories de population, donc on sait que le SMIC suit l'inflation. Par contre, les retraites, non. C'est-à-dire qu'on n'indexe plus le niveau des retraites sur l'inflation. Donc, ces catégories de population des plus âgées sont celles qui vont perdre le plus de pouvoir d'achat. Si on regarde sur tous les derniers mandats présidentiels et si on fait un peu une estimation sur le mandat actuel, c'est vrai que le pouvoir d'achat, il augmente vraiment du même ordre. Hein. C'est 0,7% entre 2007-2012, 0,8% entre 2012-2017 entre 2017-2022, ça sera à peu près 0,7%. Donc, quelles que soient les périodes, on a plutôt la même hausse de pouvoir d'achat. Mais il y a des catégories qui subissent. Et ça, sur les retraités, on sait que c'est chez les retraités qui avaient en moyenne le plus gros taux d'épargne. Et donc, c'est un choix qui est fait. C'est ceux qui consomment assez peu en moyenne. Et donc, c'est un choix qui est fait, en effet, de baisser dans ces catégories-là pour pouvoir l'augmenter dans d'autres catégories. Il y a des parties de la population qui souffrent beaucoup. Ce sont les étudiants. Hein, parce que, notamment, ils ont eu deux étés où ils n'ont pas pu travailler. Et c'est ceux chez qui on voit le plus de difficultés. C'était pas le cas auparavant.
Alors, sans prendre parti pour l'un ou l'autre candidat pour la présidentielle, parce que c'est pas votre travail, mais est-ce qu'il y a une mesure qui est plus efficace qu'une autre pour répondre à cette question du pouvoir d'achat? La majorité, elle a, par exemple, plafonné les prix, elle a versé aussi une indemnité. C'est quoi l'outil qui est efficace? Une baisse des taxes, d'après vous?
Étant donné les inégalités très fortes qui existent sur le logement, ce qui est très important, c'est en effet d'investir sur les logements sociaux et en effet de donner du pouvoir d'achat à certaines catégories des populations. C'est vrai qu'en baissant les APL et en ayant réduit finalement l'argent mis pour faire des logements sociaux, c'est pas une bonne mesure. Il faut absolument proposer des investissements pour construire plus de logements pour des catégories qui ont moins de moyens, pour les étudiants, des logements sociaux pour les étudiants et faire des choses pour qu'il y ait moins de précarité énergétique, donc aider à l'isolation des bâtiments. Il va y avoir des réglementations qui vont faire que ça va coûter très cher, en fait, hein, d'entretenir les logements. Donc je crois que vraiment le point d'accroche, c'est vraiment ce poids du logement qui est un tiers des budgets en moyenne des Français et qui ne font que croître. On est le pays d'Europe où ça pèse le plus, le logement, tout compris énergie plus location de logement ou achat de logement.
Donc avec des aides ciblées type chèque
Voilà, il faut vraiment cibler. Puisque ça ne pèse que 15-20% chez les plus aisés, il ne faut pas aider les plus aisés à payer leur énergie ou leur logement. Il faut aider ceux qui ont des logements qui coûtent cher. Et donc, il faut le chèque énergie est une très bonne mesure. Le chèque inflation est une bonne mesure, même s'il a été un petit peu saupoudré, un peu trop large. C'est des mesures ciblées dont on a besoin.
Pascal Hébel, économiste et directrice du département consommation du Crédoc, merci d'être venue sur France Inter.
France Inter. Le 13-14.
13h43 à suivre sur France Inter. Retour au lycée cette semaine. L'établissement s'appelle Antonin Artaud à Marseille et il permet aux élèves de filières professionnelles de bâtir des ponts vers des filières générales, grande école en ligne de mire. Le vif de l'histoire remonte le temps 60 ans en arrière. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Direction le Jura pour des négociations très secrètes.
Oui, dans la station de sport d'hiver, pendant les vacances de février, des rousses, de drôles de négociateurs en bonnet à pompons et lunettes épaisses.
Rendez-vous juste avant 14h. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
En ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, c'est une chanson d'amour que nous allons écouter avec le comédien Emmanuel Noblet, Molière du Seul en scène il y a quelques années.
Et la chanson dont il a choisi de me parler, c'est « Je t'aime, moi non plus », Serge Gainsbourg, Jane Birkin. Chanson qui fit scandale au moment de sa sortie en 1969. Elle fut même interdite dans plusieurs pays. Et si c'est ce titre-là qu'Emmanuel Noblet a choisi, c'est parce qu'il lui rappelle une anecdote familiale.
Cette chanson, c'est un souvenir d'enfance très précis. C'est-à-dire qu'on a 11 ans. Je dis on, c'est ma sœur jumelle et moi. On a 11 ans, ma petite sœur 8 ans. Et ce jour-là, à la maison, en Normandie, à la campagne, chez mes parents, il y a aussi ma sœur aînée qui a 9 ans de plus que nous. Elle a 20 ans. Et elle écoute ce disque. Et elle le met en boucle. Et nous, on est avec elle, on joue, mais on chante la chanson, en fait, en boucle aussi. Je vais et je viens entre tes reins. Et je me retiens. Et on a donc 11 ans et 8 ans et on chante ça.
Je t'aime.
C'est assez joyeux et on est totalement naïf. Jusqu'à l'entrée de mes parents dans cette pièce.
C'était le salon de la maison.
Le salon de la maison. Qui disent à ma sœur aînée, non mais attends, tu peux pas écouter ça devant tes frères et sœurs, arrête ça tout de suite, etc. Et ça devient tendu, nous on voyait pas de problème. Et pour mes parents qui sont pas puritains, mais qui trouvent que ça doit éveiller en eux aussi l'idée de la sexualité de leur fille de 20 ans, voilà, ils réagissent en disant, non mais fais pas chanter ça à tes frères et sœurs, je vais et je viens, non, tu coupes ça. Et ma sœur refuse d'éteindre... le disque, et je me souviens très bien de ce moment de crispation entre mes parents et elle dit, mais ils se rendent pas compte, d'ailleurs on n'a qu'à leur demander, pour vous ça veut dire quoi? Et je me souviens qu'on dit, bah ça parle d'une vague, ça parle d'une île, puis c'est une chanson d'amour. Il dit je t'aime, elle dit je t'aime, voilà. Donc ma sœur s'en sort, et je me souviens surtout de ce moment où on chante ce qu'on entend, et on chante, et je te rejoins. Et non pas je te rejoins. Et donc à ce moment-là, je sais plus qui nous dit, et ça veut dire quoi? Je te rejoins, c'est encore plus de joie, c'est deux fois de la joie, quoi. Et ce qui est pas faux. Et du coup, voilà, ça reste très naïf. Et en même temps, on a vraiment analysé le texte en disant, et par exemple, maintenant viens, lui dit de venir, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Et c'était totalement déconnecté de la sexualité. Mais l'intervention de mes parents nous faisait prendre conscience qu'il y avait cette chose-là qui était encore plus intrigante et on avait hâte de grandir. Moi, je me souviens m'être dit, mais j'ai hâte de grandir pour voir ce que c'est que ces interdits qui aujourd'hui passent parce qu'on n'a rien compris. Mais j'ai hâte de les découvrir.
Il paraît qu'il y a des chansons sur lesquelles il est bien de faire l'amour.
Ouais.
Cette chanson, est-ce que ça ne coupe pas tous les effets et tous les efforts?
Moi, j'ai jamais fait l'amour sur cette chanson et je me dis pour un couple qu'il ferait, c'est difficile pour l'homme de ne pas penser à Jane Birkin quand même. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chanson pour la partenaire féminine de se dire que l'homme pense peut-être à quelqu'un d'autre et entend l'orgasme d'une autre, quoi.
Et vous avez le souvenir d'avoir compris cette chanson vers quel âge?
J'ai pas le souvenir du moment où j'ai compris le sens, parce que évidemment il y a un âge où ça devient évident. En revanche, quand je l'entends, je continue à dire et je te rejoins. Mais je crois que c'est le propre de l'enfance d'inventer des mots régulièrement. Celui-ci il m'est resté. Un nouveau mot de la langue française grâce à Jane Birkin.
C'est très beau, je te rejoins.
Je te rejoins, voilà. Tout un programme.
Je t'aime, moi non plus, Gainsbourg et Birkin. C'était donc Frédéric, le choix d'Emmanuel Noblet.
Comédien et metteur en scène que l'on peut retrouver dans Dabadi ou Les choses de la vie, spectacle musical qui sera créé samedi au Franciscaine de Deauville, avant une tournée et 3 dates au Théâtre de l'Œuvre à Paris en avril.
Frédéric Pommier, on vous aime, revenez demain.
Avec joie.
À 13h49 sur Inter, une semaine dans leur vie vous ramène au lycée. Cette semaine, lycée Antonin Artaud, Marseille, 13e arrondissement. Il existe au sein de cet établissement une classe préparatoire bien particulière. Elle remet à niveau les élèves de bac pro pour leur permettre de poursuivre leurs études, direction les IUT, les classes prépa ou les écoles d'ingénieurs. Le prof de philo, Marc Rosmini, ouvre les portes de cette structure à Sarah Guibaudot.
Bonjour.
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 Qui manque là ? On va attendre 2 secondes peut-être. En général, on a des abandons, mais plutôt en fin d'année. Parce que les élèves qui décident de ne pas continuer en classe préparatoire à l'enseignement supérieur, souvent après Parcoursup, bon, ils décrochent un peu, ce qui peut se comprendre. Et cette année, on a eu beaucoup de décrochages précoces. Dès le mois d'octobre-novembre, parce qu'on a vraiment senti que des élèves qui avaient fait leur première, leur terminale, les 2 années de Covid, ben en fait, ils avaient tout simplement perdu l'habitude de travailler, de se concentrer. Et comme ce qu'on leur propose ici, c'est quand même très exigeant, c'est passé d'une ambiance de bac pro, où souvent le travail individuel n'est pas énorme, surtout à la maison. Là, ils ont 40 heures de cours, 10 heures de maths, plus du travail à la maison. Donc, déjà, la marche, en règle générale, elle est très haute. Mais là, avec le Covid, c'est... Donc là, on a vraiment les survivants. Les étudiants qui ont eu le mérite de s'accrocher et qui donc bénéficient cette année de conditions assez particulières puisque c'est un suivi presque individualisé.
Alors, le dialogue est-il le chemin de la vérité ? Alors, rappelez-vous, dans un premier temps, certains d'entre vous aviez fait une lecture un peu réductrice de la question, vous vous souvenez ? Parce que vous aviez pris le mot vérité uniquement dans quel sens et comme opposé à quoi ? Est-ce que vous en souvenez ? Au mensonge, exactement.
Bonjour, je m'appelle Mohamed Nadjer Efas, j'ai 18 ans, j'ai fait un bac pro au système numérique et informatique et grâce à mon prof de maths qui m'a présenté la CPES, du coup j'ai postulé sur Parcoursup et j'ai été accepté.
Et c'est quoi votre but ?
Intégrer la CPGE qui est la classe préparatoire aux grandes écoles.
Et à terme c'est une école d'ingénieurs, qu'est-ce qui vous fait rêver ?
C'est ça, c'est une bonne école d'ingénieurs et devenir ingénieur plus tard.
Quand vous êtes parti en lycée professionnel, est-ce que c'est parce que vous ne pensiez pas aux études d'ingénieur ? Qu'est-ce qui fait qu'au départ, vous étiez plutôt parti vers la voie professionnelle ?
Sincèrement, au début, vers mes années de collège, je n'étais pas trop intéressé par les études. Donc mon prof, il m'a conseillé un bac pro, comme ça je peux intégrer la vie du travail plus rapidement. Sauf que pendant mes années du lycée, j'ai lentement réfléchi. Et j'ai changé d'idée. Donc je me suis dit que j'aimerais étudier plus pour aller plus loin dans la vie.
Vous savez que le but de la philosophie, c'est pas seulement comment on doit penser, etc. La philosophie est une matière qui nous incite à mieux penser, justement, avec plus de rigueur, plus de méthode, etc. Si on pense mieux, peut-être qu'on vivra mieux. Donc, que faire concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que l'erreur recule, que l'illusion recule, que l'ignorance recule et que petit à petit on s'achemine vers des idées plus vraies, moins absurdes, etc. Donc, les garçons, peut-être vous mettez un peu plus vers le fond de la classe. Et puis, je vais vous laisser une dizaine de minutes. D'accord ?
Est-ce que vous pensez qu'il en faudrait davantage ? Des classes qui font la passerelle, justement, entre le lycée professionnel et les classes préparatoires ?
Oui, parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France. La plupart de ma classe, ils viennent tous en dehors de Marseille. Et c'est un peu dommage, car la plupart habitent loin de leurs parents. Ça sera mieux d'avoir plusieurs classes CPES à proximité.
Une semaine au lycée Antonin Artaud de Marseille. Reportage Sarah Guibaudot, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
À 13h53, le vif de l'histoire revient 60 ans en arrière dans le Jura sur des discussions de paix secrète. La guerre d'Algérie dure depuis plus de 7 ans. L'armée française a repris le contrôle des opérations, mais pour combien de mois encore ? Jean Lebrun, le temps est mûr pour la négociation.
Alors les négociations ont été entreprises par 3 fois depuis 1960. À Évian, en mars 61, le maire de la ville, Camille Blanc, qui les accueillait, a été tué par l'OAS qui voulait les faire capoter. Un peu plus tard, au château de Lugrin, c'est le FLN qui les a rompus. Pour le forcer à les reprendre, De Gaulle agite un chiffon rouge, la menace de partition de l'Algérie. Une idée qu'il va abandonner en rase campagne, une fois les Algériens ferrés, de nouveau revenus à la table de négociation.
Négociation programmée en pleine vacances de ski, mi-février, dans une station de sport d'hiver, Jean.
Et c'est le préfet du Jura qui a été chargé de dénicher le lieu. C'est à une extrémité du village des Rousses, à deux pas de la frontière suisse, un bâtiment public de peu d'apparence devant lequel les Rousslandes et les Rousslands passent chaque jour le Yeti, le garage des chasse-neige qui comporte un étage avec appartement de fonction de monsieur et madame Lison et quelques bureaux qui vont accueillir tous torts baissés les négociateurs. Or, le préfet ne sont tenus au courant que le maire, Maxime Grenier, et le président du Conseil Général du Jura, auquel on ne peut rien cacher puisque c'est Edgar Faure et qu'il adore les situations rocambolesques. Madame Lison, imaginez sa tête, fera la cuisine et un inspecteur de police assurera le ravitaillement. Ayant indiqué un jour qu'il travaillait pour le compte d'une colonie de vacances, il s'attirera une remarque d'un épicier de Morez. Dites-moi, vos gamins, hein, c'est des solides gaillards, hein, qu'est-ce qu'ils boivent comme vin et comme bière?
En effet, c'est que les représentants du gouvernement français et les délégués du gouvernement provisoire de la République algérienne qui siègent à Tunis. Ça fait déjà une vingtaine de personnes, hein, sans compter les accompagnateurs.
Saad Daleb, Mohamed Ben Yahia, Reda Malek, Belkacem Krim, Seguir Mostefaï. Les Algériens dorment en Suisse voisine. Chaque matin, des voitures les acheminent, immatriculées dans le Jura, surmontées de skis sur le toit. Ils en sortent, coiffés de bonnets à pompons et chaussés de lunettes épaisses. Puis, tout le monde s'enferme au premier étage du Yeti, qu'enveloppe bientôt un halo de fumée de tabac. La délégation française est composée de trois ministres. Le chef en est Louis Jox, flanqué d'un républicain indépendant et d'un MRP, les deux partenaires des gaullistes au gouvernement. Le secrétaire d'État au Sahara, Jean de Breuil, et le titulaire des travaux publics, Robert Buron, qui ne s'est jamais intéressé d'aussi près aux chasse-neige. Buron a souvent fréquenté l'Algérie. Il était sur place au moment du putsch d'avril 61, fait prisonnier d'ailleurs par les généraux. À ses commensaux des Rousses, il raconte, en partant d'un de ces éclats de rire dont il est coutumier, que ses geôliers n'ont pas songé à le fusiller alors qu'il tenait un ministre. Ces partisans de l'Algérie française ne sont décidément pas sérieux.
Et il faut faire vite, Jean.
Alors un jour, les négociateurs signent le menu de Madame Lison, OAS, Organisation Athlétique des Séquestrés. Il faut éviter à tout près que la vraie OAS ne surgisse. Et pas davantage la presse pensait qu'un journaliste connu de la télé, Georges Bortoli, passe ses vacances dans un hôtel à 40 mètres. Heureusement, il ne va rien deviner. Louis Jox joint tous les soirs Paris au téléphone et le général de Gaulle lui répète « il n'y a pas de temps à perdre ».
Paris a dépêché sur place une force de frappe dactylographique.
Et le groupe produit chaque jour quantité de papier avant de se mettre d'accord sur des textes finaux destinés à fonder une négociation qui serait officielle, visible, au grand jour. Un exécutif provisoire devrait être créé en Algérie qui commencerait à préparer une phase transitoire. Quelques bases, Reagan, Colomb-Béchard resteraient brièvement françaises, Mercel Kébir plus longuement, l'indépendance pétrolière et nucléaire française demeurerait en interdépendance avec l'Algérie indépendante.
Voilà.
Oui, ça c'est une formule Jean-Edgar Faure. Rendant compte à son retour devant ses amis du MRP, Robert Buron avoue qu'à la signature du document des Rousses, accompagné pour la première fois d'une poignée de main, il a ressenti une certaine exaltation. Mais les Français d'Algérie, lui demandent ses amis. Alors le texte des Rousses assure qu'ils garderont sur place une citoyenneté un temps dans le nouvel État, mais Buron ajoute qu'il ne se fait pas d'illusions. Les négociations à ciel ouvert à Évian suivront celles du Yeti aux Rousses moins d'un mois plus tard.
Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, merci et à demain. Dans quelques minutes, Mathieu Vidard et Camille Cronier pour La Terre au Carré. Bonjour.
Bonjour Marion.
Vous nous parlez d'une pandémie silencieuse aujourd'hui.
Oui, un vrai problème environnemental, c'est l'antibiorésistance.
Merci, à tout de suite.